Paolo Dell'Olio est né à Rome et choisit d'entrer chez les jésuites à 22 ans.
Pendant mon noviciat, j'ai senti un appel fort à servir la rencontre de l'Église avec l'islam. C'est dans ce cadre que j'étais envoyé très jeune, à 23 ans, au Liban, apprendre l'arabe.
Au Liban, Paolo Dell'Olio découvre la guerre, les communautés déchirées, mais il veut poursuivre l'approfondissement de la langue arabe et de la culture musulmane. Il étudie à l'Institut oriental de Naples et, de retour à Rome, rédige son doctorat à la Grégorienne sur l'espérance en islam. Entre-temps, le père Dell'Olio se rend à Damas pendant un an. Là, il étudie dans un établissement musulman. Nous sommes en 81, une expérience inoubliable.
Avec les autres étudiants dans les mosquées les soirs, suivre des cours spéciaux. On allait avec les soufis dans leur lieu particulier de prière, participer, écouter, essayer de se mettre en syntonie le plus profond possible avec cette umma, cette communauté musulmane à laquelle l'Église m'envoyait. J'ai rencontré mon désert, si je peux m'exprimer ainsi. Je venais d'une expérience difficile, il y avait eu la guerre au Liban, j'avais accompagné quelqu'un de Caritas pour visiter tout le théâtre de la guerre à l'époque, donc j'en avais les cœurs et les yeux pleins et j'avais besoin d'un temps de prière plus fort. Je suis parti au désert dans un monastère en ruine, abandonné depuis 2 siècles, le monastère de Saint-Moïse l'Abyssin, l'Éthiopien, Marmous al-Habashi. J'avais dans la tête une grave question. Quelles seraient les priorités pour les disciples de Jésus de Nazareth qui vivent en Syrie, au Proche-Orient, au milieu musulman? Et c'est là que 3 priorités se sont présentées à mon âme. La première, c'est l'importance absolue de l'expérience spirituelle, enculturée, approfondie dans la tradition chrétienne orientale et surtout celle du père du désert et l'expérience spirituelle musulmane des soufis. Donc la deuxième priorité, c'est le travail manuel. Là-dessus, certainement, nous devons énormément au bienheureux Charles de Foucault, ce qui devient aussi une responsabilité environnementale et sociale. Troisièmement, l'hospitalité, une hospitalité abrahamique ouverte à tout le monde, surtout évidemment à notre milieu musulman et chrétien oriental, de tous les rites, dans une attitude le plus possible écuménique.
L'aventure commence en plein désert. 7 ans de travail l'été avec des camps de jeûne, 7 ans de prière et une vie communautaire qui commence à 2 dans le monastère à peine restauré. Aujourd'hui, Der Mar Moussa El Habashi est vivant grâce à un groupe de 11 personnes, hommes et femmes, des Syriens surtout et 4 étrangers. Un idéal devenu réalité à tel point que le monastère est aujourd'hui victime de son succès.
Le vendredi, il y a des centaines de musulmans qui viennent faire le pique-nique près du monastère et qui montent les 350 marches du sentier qui monte au monastère pour visiter l'église, pour allumer une chandelle, pour poser des questions théologiques, pour s'intéresser aux chrétiens. Là, certainement, c'est notre joie, mais c'est aussi notre fatigue. On a le mardi de la communauté, on s'enfuit du monastère. On a un autre monastère dans une oasis à 50 km où on va se réfugier, où on a un ermitage à la montagne. Et donc, nous avons nos points de respiration par le reste. Évidemment, ce n'est pas toujours facile de partager en profondeur une théologie de la relation à l'islam avec des communautés chrétiennes qui ont eu des difficultés, qui ressentent des difficultés. D'ailleurs, ces difficultés aujourd'hui sont globales, vous le savez, et donc il faut toujours s'expliquer davantage. Nous sommes en dialogue avec l'Église locale ainsi qu'avec l'Église universelle. Il y a eu un long procès théologique et d'études, de discernement sur notre vocation qui a amené l'année dernière la Congrégation pour la doctrine de la foi de donner son nulla osta, son approbation à notre projet de vie religieuse et à nos constitutions. Donc maintenant, c'est à l'évêque local d'en arriver à une approbation, bien que temporaire, formelle, de notre communauté. Donc c'est un moment très particulier. J'en profite pour demander à ceux qui nous écoutent de prier pour nous, pour que, si ça vient du Seigneur, cela vraiment puisse se réaliser en plénitude.
Et justement, qu'est-ce que votre exemple peut apporter à l'Église et au monde ?
En tant qu'orientaux, notre communauté, c'est une communauté de rite syriaque, antiochien, oriental. Les chrétiens d'ici ont réalisé pendant 14 siècles une vraie harmonie sur le terrain avec leurs voisins musulmans. C'est là, bien que pas toujours élaboré du point de vue théologique, on ne peut pas partager le pain et le sel avec son voisin. On ne peut pas vivre les chagrins et les joies avec son voisin d'une autre religion, tout en imaginant qu'il va à l'enfer. Même si nos dogmes réciproques sur ce point de vue, avant le Concile Vatican II, étaient un peu crispés, il y avait une théologie pratique du voisinage, de l'acceptation profonde de l'autre, qui à mon avis a une portée théologique à explorer et à exporter.
Vous avez fondé une communauté, un monastère qui est un peu particulier. Vous parliez de ces trois piliers qui fondent votre vie quotidienne. Est-ce que les congrégations que vous aviez autour de vous ne vous convenaient pas ?
Moi, je suis jésuite, hein, et je suis mandaté par ma communauté jésuite pour la fondation de ce monastère. Donc il y a eu un discernement très large qui a pris beaucoup d'années et beaucoup de difficultés, mais qui est arrivé à une position claire de la part de ma communauté jésuite. Est-ce que ça ne me suffisait pas ? Moi, je suis très content jésuite, je suis très, très bien chez nous, hein. Mais en même temps, il y a eu des signes qui nous ont amenés, avec la bénédiction de l'Église, à prendre ce chemin. Certainement, il n'y a pas dans l'Église, aujourd'hui, que je sache, une communauté que sur la ligne de Charles de Foucault, Massignon, l'expérience des églises orientales locales, d'églises de langue arabe, aille pu, disons, cristalliser une consécration à l'amour de Jésus pour les musulmans et l'islam. Donc là, c'est une nouveauté dans l'Église qui est basée sur des racines aussi vieille que la vie monastique en Orient, donc depuis le 4e siècle, et en même temps qui répond à des exigences nouvelles.
Dans ce cadre-là, le fait d'être implanté dans le désert, qu'est-ce que ça vous apporte ?
Le désert, c'est un symbole fort dans la Bible, avant tout, et c'est un symbole fort dans l'islam. Les musulmans ont toujours une nostalgie de la spiritualité du désert. Cela vient du Coran, cela vient de l'origine arabe, même nomadique, bédouine, si on peut dire, des premiers musulmans. Cela vient de l'expérience au désert du prophète de l'islam, Mahomet. Ça vient donc de cette rencontre même entre les premiers musulmans, y compris les prophètes, et les moines du désert. Les musulmans nous reconnaissent en nous voyant au désert. Cela correspond à une idée de la vie religieuse chrétienne qu'ils connaissent, ils reconnaissent, ils protègent et ils approuvent.